Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue. Bienvenue à nouveau dans ce programme, dans votre émission des danses, Les Monts en Chaussures. Aujourd'hui, nous reprenons notre chère danse contemporaine pour continuer d'explorer ces grands livres de Laurence Loupe qui nous donnent de pistes pour ceux qui aiment regarder la danse, mais aussi pour ceux qui aiment pratiquer une activité physique. On avait parlé vers la fin sur les langages corporels. C'est bien évidemment la danse qui nous proportionne beaucoup d'outils, des connaissances pour poser les questions nécessaires à ces outils magiques que nous avons tous en nous. C'est les corps. Je me suis posé beaucoup la question de comment aborder à chaque fois la danse contemporaine parce que c'est un univers très riche. Où justement il y a une intention de déplacement et de briser les catégories et les concepts avec lesquels on perçoit le monde, qu'on a reçu par l'éducation, mais aussi par tout simplement notre entourage. Donc c'est bien évidemment un univers extrêmement riche, qui n'est pas univoque, qui ne peut pas proportionner une seule réponse. Et donc je me suis dit, peut-être tu vas être dans l'air du temps comme beaucoup d'influenceurs, des personnes qui produisent beaucoup de contenu. Et je me suis dit, on va revenir, on va regarder dans Google qu'est-ce qu'il nous dit. Et la définition que j'ai trouvée, je l'ai trouvée assez juste. C'est écrit les caractéristiques qui fait la danse contemporaine serait dans ces cas selon les moteurs de recherche les travail au sol, la fluidité, l'utilisation du poids du corps dans les mouvements et la grande mobilité du buste. Et je le trouve synthétique et complète. Et donc on en avait parlé surtout du poids, de cette conscience qui est assez intéressante à voir quand on est dans une pratique corporelle. Parce que nous avons tous intégré beaucoup de techniques, beaucoup de façons de bouger. C'est automatique, justement, pour ne plus avoir à penser. Donc notre cerveau nous permet de faire des raccourcis et pouvoir vivre normalement. Sinon, on serait comme des robots atrophiés, avec une grosse difficulté à bouger, à marcher, à descendre un escalier. C'est extrêmement drôle. Donc la danse, il y a tout une recherche sur comment déjouer certains automatismes qui sont musculaires ou osseux, et que justement dans les tapis de danse, c'est tout l'intérêt de chercher ces recoins. C'est le mot que je trouve plus juste dans cette recherche. Donc on a parlé du placement du centre mental, du centre cérébral. Donc c'est dans ces cas, c'est un état intériorisé. Donc on a une liaison entre l'idée et le corps. Et c'est que nous concevons à l'intérieur de notre tête et comment est-ce que ça se symbolise dans notre squelette, dans nos mouvements. Mais évidemment, dans la danse contemporaine, il n'y a pas un mouvement correct, il n'y a pas une posture définie et déclarée qui pourrait donner un certain jugement. C'est justement de là où il vient beaucoup la problématique intéressante de... Et donc, qu'est-ce qui est un bon mouvement, qu'est-ce qui est un mauvais mouvement? Et pourquoi s'est posé cette question? pourquoi toujours revenir à la dualité? Il faut en sortir un peu de cette dualité dans laquelle on est constamment appelé. Donc bien évidemment, il n'y a pas non plus une posture, il n'y a pas une façon unique de s'émouvoir ou de porter l'élégance, par exemple, ou de porter la beauté ou la grâce. Même si, dans beaucoup de techniques, il y a certainement une recherche sur les angles, sur l'élongation de la colonne vertébrale. Mais dans beaucoup d'autres pratiques, on découvre que le corps a d'autres façons aussi de se mouvoir et de nous montrer, nous démontrer ou nous d'illustrer ses capacités ou ses composantes. Je pose souvent, je ne sais pas si vous vous êtes un peu remarqué, mais je pose souvent la question, je vais enlever mon pull parce que c'est trop chaud, à mes invités, souvent, s'ils ont des pièges. Je pose toujours cette question parce qu'elle est extrêmement intéressante et elle réside tout simplement dans le fait que je trouve que le corps a énormément de pièges, par exemple celui qu'on vient d'évoquer sur les fonctionnements, sur les automatismes que nous avons acquis et comment est-ce qu'on essaie de déjouer ça avec une recherche en danse. Par exemple, ça c'est un piège. Mais il y a aussi, par exemple, le piège du miroir. Il y a beaucoup d'écoles qui travaillent avec les miroirs. Et moi, j'ai suivi une formation un peu mélangée des théâtres et danse. Et dans l'école théâtre où j'étais, c'était une école très traditionnelle avec une riche composante pédagogique. On nous empêchait de regarder le miroir. Et les miroirs étaient couverts. Et donc, c'est pas un détail. Si les écoles, il y a des écoles qui cachent le miroir devant les élèves et qui le montrent par exemple aux élèves seulement qui sont déjà bien formés. Et donc c'est un exemple de ces pièges qu'on peut proposer, soit l'enlever, soit le proposer pour justement cibler la recherche quelque part. Mais évidemment, quand on se regarde dans le miroir, il y a tout de suite une extériorité qui vient à jouer en plus de la conscience en soi qu'on doit avoir. Donc une sorte, je ne dirais pas de dédoublement, mais une attention qui est dédoublée, qui est posée à deux endroits. Donc le miroir, ça m'a toujours posé comme intéressant. J'ai fait beaucoup de pratiques personnelles à la maison. Et faites la remarque de bouger devant le miroir sans le regarder. Et après, faites la même en regardant et en étant conscient de ce que vous faites et de ce que vous ressentez, comment vous le voyez aussi. Et la modification que ça effectue forcément, parce qu'on est complètement cadré et formaté par notre conception de beauté, par ce qui nous manque, ce qui on est en trop. Et ça m'amène à vous poser un problème. J'ai regardé un jour un documentaire sur la pieuvre. Et le monsieur disait, la pieuvre, c'est comme si elle avait un cerveau dans chaque tentacule. Et ça m'a étonné. Et ça m'a rappelé un cours de danse où la maîtresse nous a dit, pensez qu'elle nous faisait bouger juste l'index. Et elle était en train de dire... Pensez que dans cet index, il y a un cerveau, un œil. Non, elle avait dit œil, pardon. Et donc, c'est un peu la même comparaison. C'est-à-dire qu'on va dire qu'une partie infime, micro partie du corps, elle-même a une façon autonome de bouger et de se concevoir à elle-même. Donc, c'est une idée qui est très subtile quand on veut libérer quelque chose du corps et qu'on est en train de rechercher des exercices. Cet exercice, il se révèle assez éloquent et assez c'est un témoin de qui nous aide beaucoup à examiner notre corps d'une façon beaucoup plus libre et sans tous les mandats qui sont souvent devant nous. Donc c'est un exercice intéressant. Un deuxième exercice, avant de faire une petite pause musicale, c'est l'exercice de dessiner. Il y a beaucoup d'exercices de proprioception, notamment des personnes qui propose l'observation de comment nous percevons, de fermer les yeux et de faire des mouvements, etc. J'imagine que vous connaissez. Mais il y a cet exercice de dessiner le corps, c'est-à-dire de prendre une partie du corps et toucher un autre membre comme si on était en train de vraiment d'exercer les tracés sur une feuille. Moi, je ne suis pas du tout doué pour dessiner. J'ai une piètre capacité à dessiner. Mais quand il s'agit de le faire physiquement, là, les formes viennent et les silhouettes se dessinent dans ma tête. Et ça produit quand même une qualité extrêmement différente de mouvement. Et donc, c'est ce type de pratiques qui m'ont animé à vous en parler d'une façon évidemment très différente, parce que j'essaye d'éviter aussi les grands noms de la danse, parce qu'on connaît tous l'apport énorme de Martha Graham, de José Limón, de Cunningham, de beaucoup, beaucoup de chorégraphes qui ont inspiré des générations et des générations. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus au profond de ces langages qui est là, qui est dans des livres et dans des cours de danse. Et donc, ma chère compagne de cet univers radiophonique va nous mettre des sons, un son que j'aime beaucoup. Je vous laisse en compagnie d'Nelly Furtado et on revient tout de suite.
Yeah.
Donc avec ce Just For You, on revient à notre univers chorégraphique, à cet intérêt porté sur les corps et sur les analyses qu'on peut porter en tant qu'amateur, mais aussi en tant que professionnel, ancré bien évidemment dans les cadres historiques où ça se passe. Et nous sommes en train de parler de l'avènement de la danse contemporaine, c'est-à-dire le XXe siècle, où il y a eu beaucoup d'explorations. Des personnes qui venaient du classique et qui voulaient rompre les cadres du classique, mais aussi toute une réflexion autour de, par exemple, la sexualité ou comment nous concevons notre corps ont porté des fruits importants dans toutes ces réflexions et de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la danse contemporaine. Et j'aime beaucoup m'attarder dans cette période parce que c'est de là où on a des traces extrêmement fines des chorégraphes qui ont laissé aussi des écrits, pas seulement des partitions, je vais dire, mais aussi des réflexions en prose sur les corps, de comment faire, de pourquoi les faire. Et c'est de là l'intérêt de notre émission en général. Et bien évidemment, je ouvre à chaque fois la place pour autre type de pratiques, parce qu'en même temps, j'apprends aussi à avoir d'autres types de fonctionnalités du mouvement corporel. C'est pas que de la danse contemporaine, mais c'est aussi tout un arsenal, c'est un mot un peu violent, mais toute une architecture qui compose déjà les pratiques, mais aussi nous-mêmes, c'est-à-dire notre corps est composé d'une infinité de systèmes qui nous façonnent, mais aussi qu'on peut découvrir à travers le mouvement et les pratiques et certaines praticiennes et praticiens qui sont venus et qui viendront dans le futur. Et donc on est en train de parler de ces deux exercices que j'avais imaginés qui pourraient donner un exemple précis de ces recherches-là, de comment le faire, comment le pratiquer à la maison. Je rêve des chorégraphies radiophoniques à la maison. Ça, un jour, ça pourrait être très sympa. Et donc, dans ce sens, si vous peut-être percevez derrière ma proposition, c'est-à-dire celle de mettre un œil partout, un cerveau partout, dans chaque extrémité du corps. Ça rendrait très compliqué la mobilité, mais si on le fait de façon consciente, vous allez vous rendre compte que c'est merveilleux tout ce qu'on peut produire juste avec un seul cerveau, mais que les dépliants, il va nous surprendre. Il nous surprend toujours les corps, surtout quand il souffre ou quand il est malade. Vous êtes tous témoins de la capacité qu'a les corps à nous montrer qu'il veut continuer en vie, qu'il veut continuer à s'émouvoir. Et donc, ça, ce que je voulais dire, de ce qu'il y a derrière tout ça, c'est sortir d'une conception qui pourrait être abstraite et neutre du corps. Parce que dès qu'on pose le mot corps, je l'ai tellement utilisé dans ma vie et dans mes réflexions qu'après, à force, ça devient un concept abstrait, neutre ou uniforme. Et on se dit, mais c'est pas du tout ça ce que je vais dire, parce que c'est ça le problème. Quand on nomme quelque chose, forcément on va le renfermer dans cette petite boîte de définition. Et donc c'est tout le travail de beaucoup de chorégraphes, de sortir justement de ces boîtes dans lesquelles, je pense que c'est naturel, quand on connaît quelque chose, la connaissance elle limite quelque part, et la production elle propose justement de pouvoir casser certaines boîtes qui nous emprisonnent, mais aussi de garder d'autres qui peuvent nous aider, qui peuvent nous permettre de mieux naviguer. Et donc dans cet univers de la danse contemporaine, il n'y a pas d'unicité dans la définition de ces corps. C'est pour ça que c'est si passionnant et intéressant de rencontrer des personnes. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à parler avec des danseurs, des chorégraphes qui ont des visions extrêmement différentes. Il n'y a pas à croire, mais entre les grands, du XXe siècle, il y avait des différences extrêmement substantielles. Je peux parler d'une, par exemple, Campina Bausch et Bausch, Bausch, je ne sais pas bien prononcer l'allemand, et faisait les danseurs parler. C'était un gros scandale qu'un danseur puisse prononcer un mot devant des milliers de personnes, ou par exemple de rester immobile. Campina Bausch et ses danseurs, c'était des danseurs avec une présence extrêmement forte, et le fessé restait immobile. Et donc là, il y a toute la discussion de ces chorégraphes qui disent « moi, c'est la non-danse, moi, c'est la... » Par exemple, il ne faut pas aller plus loin, mais Dago, le chorégraphe que j'ai interviewé il y a quelques émissions, il nous avait dit « moi, je n'aime pas les termes danse. » Et ça interpelle toujours. Donc c'est de la danse, mais si on l'appelle danse, il se passe quelque chose. Et donc cette posture provocatrice de laisser un corps immobile dans les plateaux, elle pose énormément de problèmes intéressants et de comment et pourquoi cette énergie, elle bouge. Parce qu'on peut dire, d'accord, elle est immobile, mais nous, en tant que spectateurs, on aurait pu voir que ça bougeait d'une autre façon, on va dire peut-être virtuelle ou énergétique. Et donc, c'est cet univers-là qui est intéressant à découvrir quand on passe... par créer un corps singulier et à sortir de l'identité physique. Il n'y a pas que les physiques, par exemple, des chorégraphes disaient non, mais c'est juste des muscles et des activations, et pourquoi pas. C'est aussi une autre vision, parce qu'à chaque fois, chaque chorégraphe nous apprend à savoir que c'est une vision. C'est ça qui est assez important de cet univers, de respecter justement cette subjectivité, même au niveau professionnel, qui rentre en compte. Donc, un autre exemple, c'est l'abandon de certaines choses. Par exemple, la danse classique, d'accord, c'est toujours... le corps est toujours, pratiquement toujours debout. Et si vous vous rappelez la définition qu'on lisait tout à l'heure de Google, quand elle parlait du sol... ça, pour moi, c'est la grande découverte. C'est-à-dire qu'on pose le corps par terre, complètement abandonné, qui se donne entièrement à la gravité. Et pour ceux qui ont pratiqué la danse contemporaine des sols, flying low et d'autres techniques, vous vous rendez compte de la multiplicité des directions, des possibilités qu'on a quand on est par terre. Et ça multiplie ce qui était déjà... très riche avec les ballets classiques. Donc c'est peut-être que je me trompe en disant que c'est une continuité, mais pour moi si, c'est une continuation du temps, pas forcément d'un progrès vers l'avant ou vers l'arrière, mais ce sont les réflexions cumulées de toutes ces personnes qui ont pu avoir le privilège de présenter ces réflexions dansées ou ces réflexions écrites à travers ces 20e siècle qui est bouleversant. Et donc, pareil qu'on parle du sol, on peut parler de beaucoup d'autres parties. Je me rappelle une fois une prof qui m'a posé la question, mais il commence où votre bras ? J'ai dit, dans l'épaule. Il m'a dit, non, votre bras commence à la colonne vertébrale. Il m'a touché arrière, sur mon doigt, la colonne vertébrale. Il m'a touché la colonne vertébrale. Il a dit, non, votre bras commence ici. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut voir quelque chose de l'extérieur, la silhouette, la forme, mais la charge musculaire énergétique qu'il faut pour soulever un bras, c'est là où on dit, ah d'accord, la réflexion elle nous aide à déplacer, justement, c'est ce regard de la forme de ses membres et de pouvoir puiser dans les potentiels qu'il y a à l'intérieur du corps. Et je réfléchis comme ça parce que je connais pas mal de personnes qui font du travail avec des personnes en situation de handicap, et c'est toujours très intéressant quand on a l'opportunité de naviguer avec certaines personnes qui ont des problèmes de mobilité, parce que c'est là où la danse a un pouvoir extrêmement fort. C'est là où on se rend compte, même si on n'a pas besoin de cette expérience-là, mais quand on va avec cette expérience, ça redouble. C'est qu'on sait déjà quand on passe par une école de danse et qu'on a l'opportunité de découvrir les potentiels que nous avons entre les mains. Et même s'il n'y a pas besoin d'entraînement, bien évidemment. Donc il y a toute cette réflexion de chaque partie du corps. Je pense beaucoup à ces sémiologues qui ont commencé à faire des réflexions sur les objets. Donc l'humain n'était plus intéressant. On commençait à dire, bon, je vais faire travailler un objet, une chaise. Je pense à Marie Laribotte qui faisait travailler ses chaises comme si c'était ses compagnons de scène. Et pareil pour le corps. Donc on commence à réfléchir autrement, à dire, donc il y a mes fesses aussi qui peuvent réfléchir. Il y a aussi ma nuque, il y a aussi mes épaules, mon thorax. Et chaque partie du corps est là, bien évidemment, des limitations anatomiques. Mais chacune d'entre elles a une vie propre. Parce que imaginez-vous les conversations qu'ils peuvent avoir l'orteil avec le coude. Chacun l'orteil qui est toute sa journée dans la chaussure, avec ses coudes qui est toujours libre, toujours à l'air libre, à se balader, à se pavaner. Et le pauvre orteil, j'ai toujours imaginé ces petites conversations entre nos parties du corps. On a parlé de l'immobilité, et donc ça, on revient à une idée centrale, que c'est la peau. C'est, je réfléchissais beaucoup comment introduire cette dernière idée. Il y a un concept qui existe, et j'ai résisté de le présenter, mais je suis obligé de le présenter si on veut parler de continuer la réflexion dans le sens où je vous la propose. C'est la kinésphère proposée par Rudolf Laven, un chorologue et chorégraphe emblématique du XXe siècle. Et donc la kinésphère, c'est cet espace quand vous êtes posé debout. C'est l'espace que vos membres peuvent toucher dans la position debout. Donc c'est tout cet espace qui vous entoure. Et ce concept est important parce que notre corps ne s'arrête pas à la surface et à la silhouette comme on pourrait le croire. Donc mon corps s'arrête à ma peau. Mais la peau, elle contient beaucoup plus d'informations de ce que vous pouvez imaginer. Et donc, cette conception de la kinésphère, elle aide beaucoup. Déjà, l'emplacement dans une salle, quand vous êtes plusieurs, et pour respecter, par exemple, je pense au Covid, et respecter la limite personnelle que nous a appris, malheureusement, ces événements du Covid. Et donc cette conception nous aide à comprendre que si certes nous sommes limités par rapport à l'ampleur de nos bras, à la capacité de tourner la tête, etc., on est quand même limité physiquement, mais la conception des surfaces, elle doit être abordée autrement. C'est pas ça la limite vraiment du corps, c'est le corps en mouvement et la pensée de ce mouvement propre qui est en jeu ici. Et donc ça nous permet de sortir de ce rôle qu'on donne parfois au corps, d'un emballage, d'un paquet, même si ces mots je l'adore en espagnol, le paquete. Comme un paquet organique, pardon, je sautais de langue. Et parce que le corps invente et infante les volumes. C'est lui qui va nous donner toutes les possibilités des formes qu'on a. Donc, peut-être une idée qui peut nous aider dans la réflexion, c'est penser le corps en 3D. Donc, c'est notre propre corps qui peut produire tous ces mouvements, tous ces déplacements. Et quand on réfléchit, beaucoup de ces images que nous avons de la 3D et à travers nos ordinateurs, à travers plein d'applications aujourd'hui qui permettent de faire des choses merveilleuses, quand on bouge, c'est exactement pareil. On crée des volumes et le corps en mouvement, le corps dansant ne s'arrête pas à cette simple silhouette qu'on pouvait croire qui est notre fin. Et donc là, voilà toute la réflexion de où commencent ses bras. Les bras commencent dans la colonne vertébrale. Et voilà, nous, à nouveau au point de départ, avec cette connaissance que je dirais ancestrale et pourquoi pas très ancienne. Je crois beaucoup à ce que nous savons à l'intérieur de nous-mêmes, de façon très concrète, de façon physique. Parce qu'il y a il n'y a pas une stabilité, quelque chose de fossilisé, mais c'est tout le contraire. Le corps est là une résonance, une vibration, une turbulence qui est toujours à nos côtés, que pour moi, ça me réveille, comme ça peut aussi nous décevoir, bien évidemment. Il y a une phrase qui peut-être s'affirmera notre réflexion d'aujourd'hui, c'est les gestes qui fabriquent les corps à chaque instant. C'est une phrase de Hubert Godard, un grand penseur du mouvement, qui est souvent dans les références du livre. Je vous laisse avec cette idée de ce corps qui est un entre-corps, et je n'ai pas eu le temps de tout parler, de tout développer. Mais je suis contente de vous avoir eu ici à mes côtés et je serai toujours ici avec cet univers qui est très riche, qui nous apprend beaucoup à ne plus hésiter à danser et à demander quelqu'un de danser. Je vous souhaite une très belle semaine et ici à la radio, on sera toujours avec vous, en compagnie et en bon mouvement.
Alors tu veux faire danseur ?
And push. And turn and table tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!